Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Une heure de débrief de tech, c'est comme ça tous les soirs, vous le savez, 20h-21h avec nos experts qui sont là. Des voix et des visages que vous connaissez, Christophe Olnet.
Salut. Bonsoir, Christophe. Bonsoir.
Ravi de te retrouver. On voit que la French Riviera est passée par là avec ce teint quand même. Allez, hein, mon cher Christophe.
C'est pas avec le temps parisien, là.
Ça, c'est certain. Senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft Asie du Sud et France. À tes côtés, Salim Assad, qu'on est très heureux de retrouver. Salut, bonsoir, Salim. Bonsoir. Associé chez New Found. Rappelons-le.
Fund, fonds de venture capital qui investit des tickets en amorçage dans les startups.
Très bien, avec quelques belles réussites quand même à la clé. Hein.
Voilà. Dont Aircall, il y en a beaucoup.
Il y en a quand même quelques-unes. Et vous connaissez Salim, puisque de temps en temps, il vient dans Tech & Co pour commenter l'actu. Et Boris Mananti nous a rejoint. Salut Boris.
Bonjour.
Et voilà un nouveau visage. Et voilà une nouvelle voix. En tous les cas, sur BFM Business, puisque monsieur a déjà fait de la radio et de la télé. Bienvenue Boris, rédacteur en chef du service économie du Nouvel Obs, qu'on ne présente pas, spécialiste des nouvelles technologies et auteur de livres. Je crois qu'il y a quelques temps de cela, tu avais commis un livre avec une consoeur à toi sur le danger des portables et des ados, sujet qui revient d'actualité tout le temps, en fait, qui ne s'arrête jamais.
Ça n'arrête pas. On en parlera avec TikTok. Oui.
Voilà, c'est ça, exactement. Et là, tu t'apprêtes à sortir le 2 mai prochain ce livre, donc, paru aux éditions du Rocher, Elon Musk, le bonimenteur. Alors, on va en profiter puisque Boris a planché sur Elon Musk. Alors, nous, on parle beaucoup de lui. Et c'est intéressant de que tu sois avec nous parce que je propose que dans cette demi-heure-là, on revienne un petit peu sur le parcours d'Elon Musk et un petit peu ce qui t'a motivé à écrire ce bouquin. Et puis, l'actualité qui nous rattrape, on va en parler tout à l'heure. Vous savez que Elon Musk aimerait gagner un peu plus d'argent avec Twitter. Et là, l'idée, c'est de faire payer les nouveaux utilisateurs qui arrivent sur Twitter. Alors, son excuse, c'est pour éviter d'avoir des bots, parce qu'il fait la chasse aux bots. Mais bon, c'est aussi pour gagner un petit peu d'argent quand même. Pourquoi un livre sur Elon Musk ?
Pourquoi ? Le cheminement est assez simple. Elon Musk.
Parce que c'est pas le premier livre et ça sera sans doute pas le dernier en
non,
plus. Hein.
Non, il y en aura une pléthore d'autres certainement. Elon Musk est toujours un peu vanté comme celui qui révolutionne tout. Tout ce qui touche, c'est révolutionnaire. L'internet, la banque en ligne, l'aéronautique avec SpaceX.
Bien sûr, les voitures électriques.
Les voitures électriques avec Tesla. Plus récemment, Neuralink avec les implants cérébraux. Il y avait un narratif comme ça qui s'imposait un petit peu. C'est aussi l'homme le plus riche du monde. Ils se battent un peu pour le titre avec Bernard Arnault. Sauf quand on creuse un petit peu son histoire, ses éléments biographiques, mais aussi un petit peu tout ce qui se passe à chaque fois qu'il fait une grande promesse, une grande annonce, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas toujours très net. Et en creusant, en fait, j'étais curieux de découvrir la réalité derrière ce personnage, qui est assez double, assez faux, et qui réinvente en permanence son histoire, qui réécrit son histoire, qui se modèle un peu son personnage.
Donc c'est plutôt un bouquin à charge ?
C'est plutôt un bouquin à charge.
D'accord.
C'est un portrait plutôt sans concession.
Oui. Ok. J'imagine que ça ne doit pas être très facile d'enquêter sur Elon Musk. Comment on s'y prend aujourd'hui pour enquêter sur un gars qui est une méga star ? C'est une rockstar, Elon Musk.
Oui, oui.
Y a des gens qui parlent, qui l'ont connu.
Il y a des gens, disons qu'il y a eu un avant après Twitter, je dirais. Il y a eu, parce que moi j'ai commencé bien avant le rachat de Twitter, à creuser un petit peu, et alors là il y avait beaucoup de portes fermées, et il y avait un peu ce qu'on dit en journalisme du off, ouais. Des propos qui ne peuvent pas être cités ou pas sourcés. Donc c'était très, très prudent au début. Avec le rachat de Twitter, et quand il débarque chez Twitter avec son évier, qui l'enfonce toutes les portes et qui se met à licencier un peu à tour de bras et la joue un peu caïd, mais aussi où on comprend que son comportement erratique révèle qu'il n'a pas vraiment de stratégie pour le réseau social et ça périclite un petit peu.
Oui, combien de fois il a lancé des trucs qu'il a après annulé,
Je pense que son vrai visage est un peu plus apparu à ce moment-là. C'est le moment où il s'est de plus en plus engagé politiquement. Il le faisait de manière plus discrète avant, mais là, il assume complètement ses positions. Très conservateur, très autoritaire, très d'extrême droite, en fait. Et en ce moment, très pro-Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine.
Même s'il n'a pas avoué ouvertement qu'il était pro-Trump, mais il laisse planer...
La précédente élection, il le soutenait, catégoriquement. Là, c'est un peu plus flou. Il soutenait Ron DeSantis, le gouverneur de Californie, qui s'est retiré au profit de Donald Trump.
D'accord.
Et toutes ses positions, et sur son compte à lui, il ne fait que de parler de migrants. On sent qu'il suit un peu le discours ambiant des Républicains.
Tu parlais tout à l'heure de zone sombre d'Elon Musk. C'est quoi ces traits de caractère qui reviennent régulièrement quand tu interroges les gens qui l'ont connu ?
Il y a le comportement très autoritaire, très dur, très rude, très froid. Un manque total d'empathie en tant que patron, par exemple. On l'a vu licencier, là encore, il vient d'annoncer des licenciements chez Tesla, c'est par un simple email que c'est
10%,
que
10% des effectifs.
Ouais, ça va être beaucoup de monde licencié. C'est assez brutal comme méthode de management. Ça revient beaucoup. Si on va sur du un peu plus perso, on me l'a décrit comme assez près de ses sous. Oui, paradoxalement, hein, l'homme le plus riche du monde est assez près de ses sous. Et quand il fait des dîners avec ses lieutenants, c'est implicite que c'est eux qui doivent payer et inviter systématiquement.
C'est dingue ça. Ça, c'est un trait de caractère que je ne connaissais pas.
Voilà. Il y a beaucoup de dettes maintenant.
Oui, c'est pour ça. Ben oui, il a quelques milliards de découverts.
Il a quelques milliards de découverts, mais bon, il a des actions qui sont quand même bien valorisées aussi à côté.
Voilà. Et puis comme tu disais, hein, il est souvent qualifié comme étant l'homme le plus riche du monde.
Exactement. Hein. Et j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec son père qui, lui, a une lecture de son fils comme quelqu'un qui est dans la séduction. Dans la séduction permanente, qui a des problèmes avec ça, de séduction, il a des frustrations liées à l'enfance, à l'adolescence, et que c'est un séducteur.
D'accord. Et ça fait partie de son... En fait, sa séduction, c'est aussi un pouvoir de charmer, en fait, peut-être de nouveaux ingénieurs ou de nouveaux CEO pour, grossir son équipe. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les boîtes qu'il a, il a intérêt à convaincre les meilleurs managers.
Évidemment. Après, c'est un intérêt qui est un peu trouble, puisqu'il sait très très bien en jouer. Mm-hmm. Il sait très très bien être dans une mécanique d'être toujours dans la promesse d'après. Là, on le voit, Tesla va pas très bien, annonce des licenciements. Le cours de bourse, depuis le début de l'année, baisse de quasiment un tiers. Il est toujours dans l'annonce d'après. Mm-hmm. Là, il nous fait la grande promesse qu'au mois d'août, on aura des robots taxis. Un peu sur le modèle des voitures de Google qui sont à San Francisco. On est toujours dans la promesse d'après, même si elle ne se réalise pas.
Oui, c'est vrai que ça fait des années que Elon Musk promet des véhicules autonomes et ça n'arrive pas. Tu te doutais un petit peu de ce double visage d'Elon Musk, à la fois donc génie incontesté, parce que on appuie où ça fait mal, mais malgré tout, c'est un gars qui révolutionne la société avec l'espace, avec les véhicules électriques. Ce que tu dis dans ton livre, c'est que souvent il pique les idées aux autres.
Voilà.
Mais après, c'est lui qui les exécute. Donc
voilà. On peut tempérer
Steve Jobs aussi. Hein.
On peut tempérer certains aspects du côté génial. Tesla, on dit toujours Tesla, il a révolutionné la voiture électrique en créant Tesla. Il est important de rappeler que c'est pas lui qui crée Tesla, c'est pas lui qui a l'idée de départ. C'est deux ingénieurs qui développent cette idée-là, qui bâtissent le premier modèle et ils frappent à la porte d'Elon Musk pour les financer, tout simplement. Et c'est vraiment le premier actionnaire à l'origine.
Après il a eu du nez.
Après, il a du nez.
Et l'idée, c'est jamais plus compliqué, en réalité.
Ouais.
L'exécution, enfin, en tout cas, nous, dans la position d'investisseur, on n'est jamais à rechercher celui qui a la meilleure idée, celui qui est capable de l'exécuter.
C'est ça.
Il
n'y
a rien de plus commun que des gens qui ont de bonnes idées.
Et c'est un bon exécuteur, on va dire.
C'est quelqu'un qui a révolutionné la manière d'exécuter de bonnes idées.
Je ne sais pas. Je suis pas sûr.
Non, vas-y Christophe.
Je suis pas certain. En fait, moi, ce que je sens chez Elon Musk, c'est effectivement, tout en étant une personnalité extrêmement forte, froide, etc., aussi une certaine fragilité, probablement. On sent qu'il y a une faille quelque part, qui a probablement été un moteur pour lui. Alors, c'est peut-être cette séduction.
Oui. Après, on le dit.
Tout le monde a des failles, il en a aussi.
On le dit autiste léger, c'est vrai, c'est un Asperger.
Il l'a revendiqué dans une émission humoristique, le Saturday Night Live.
Oui.
Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est difficile à dire à quel point il joue un peu du cliché du geek autiste sympathique, des shiny IP, comme disent les Américains dans la Silicon Valley, qui sont en quête de ça. Est-ce que c'est vrai ou pas ? On ne sait pas. Pour autant, il ne s'est jamais positionné en faveur des troubles autistiques et en soutien des troubles autistiques de quelque façon que ce soit.
Oui, Christophe.
Ce qui est sûr, c'est qu'il a quelque chose que j'admire beaucoup chez les entrepreneurs, c'est cette foi, FOI, toi, cette volonté parfois de dire « je ne veux pas savoir si c'est possible ou pas, voilà la vision, je l'annonce, je sais l'exprimer ». Et je suis
avec capable, brutalité parfois.
Je suis capable d'entraîner, de lever des fonds. Je suis capable d'entraîner. Je suis capable de me mettre en danger. Il a été plusieurs fois. Il a été plusieurs fois au bord de la banqueroute, de la faillite. Bien il sûr. S'en est sorti. Enfin, il faut quand même être très, avoir une solidité en soi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement fort. Après. Mais je pense que c'est une première en tant qu'investisseur, c'est quelque chose qu'on attend, mais on attend aussi une capacité à s'entourer, une capacité à exécuter et une capacité à pouvoir faire des pivots lorsque c'est nécessaire, ne pas être omnibulé par une idée. Il faut à la fois être très ambitieux et accrocheur, mais être capable de pouvoir avoir une agilité et pouvoir bouger. Ouais. Et de ce point de vue, je pense qu'il a il a été plutôt bien, ce qui est enfin plutôt dans il a plutôt répondu à ces critères. Après sur ces il s'est lancé dans 4 ou 5 aventures dont on sent qu'il y a probablement un schéma global qu'il a en tête.
Mais, des connexions
entre Starlink, Neuralink, Tesla, SpaceX, X. Bon, il y a certainement une vision globale, mais elle n'est pas extrêmement claire. Et l'impression qu'il me donne, moi, c'est gens qui ont des assiettes tournantes. Il en a 5, il passe de l'une, ça tourne, il va à l'autre et
ouais, c'est un peu
et
ça.
On se demande si à un moment
il n'y a pas les assiettes qui vont tomber.
Il y en a pas une qui va se casser la figure.
Ouais, c'est clair. Salim.
Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de résilience chez Elon Musk. Nous, quand on regarde des dossiers, il y a 2-3 choses qu'on regarde en priorité. Enfin, évidemment, ça n'a rien à voir comparer des startups avec Elon Musk, mais ça me fait penser à la manière dont on travaille au quotidien. Est-ce que l'entrepreneur est résilient? Est-ce qu'il a capacité à lever des fonds? Parce que le but dans une belle start-up ou une aventure qui va bien marcher, c'est d'aller réussir à lever le tour d'après et être capable de se financer. Et est-ce qu'il va être capable de recruter les meilleurs talents? Parce que c'est pas lui qui va faire la boîte, c'est les talents qu'il va être capable de recruter. Donc il lui faut cet aspect un peu dragueur, un peu séducteur, etc. pour attirer les meilleurs talents. Il lui faut cet aspect séducteur pour attirer les investisseurs. Et évidemment, la résilience, c'est la chose numéro un, comme tu l'as dit. Tesla, je crois, je crois que c'était décembre 2008 ou à Noël 2008. Il est passé à une. Enfin, ce qu'il raconte, heures. Je ne sais pas si c'est vrai, tu diras si effectivement c'est vrai ou pas, quelques heures de la banqueroute avant l'investissement de Daimler, est-ce que c'est vrai ou pas. Maintenant, il y a quelque chose qui est différent chez Elon Musk, c'est que les gens continuent de lui faire confiance, comparé à ce qu'on aurait fait nous, alors qu'il gère 5, 6, 7 sociétés différentes.
Ouais.
Nous, quand on investit dans un entrepreneur, on lui dit attends, il doit être focalisé à 100%
humainement,
dans
c'est
ta
impossible.
Société. Et aujourd'hui, sur des sociétés qui pèsent plusieurs milliards, SpaceX, Tesla, Neuralink, Twitter, etc. C'est juste exceptionnel.
Mais après, Boris, est-ce qu'il incarne ces sociétés, pardon, mais c'est pas lui qui exécute, c'est pas possible.
Il y a des choses qu'il exécute lui, et il a des idées un peu en tête, il est obnubilé par certaines idées.
Aussi parfois, bien pour Tesla, pour X,
qui peuvent
Neuralink.
Être assez mauvaises. Si je prends un exemple, il a bien imposé chez Tesla la mise à jour de la voiture régulièrement à distance, qui ça, permet de développer les capacités.
Ça, c'est une bonne idée.
Mais il en abuse énormément. Par exemple, il sort le nouveau modèle S, il se dit « Ah, les pneus, ça serait mieux s'ils faisaient, je crois que c'est 3 mm de plus. » Pourquoi ? Personne ne le sait. Il trouve que c'est plus joli. Elle est lancée comme ça. Résultat, pendant 6 mois, il n'y a plus d'ABS sur la voiture.
Parce que les pneus n'étaient plus compatibles avec l'ABS.
Compatibles.
Et là, ça, il s'en fout.
C'est-à-dire et il s'en que fout, pour lui, il dira « On fait une mise à jour plus tard. »
Voilà. C'est-à-dire donc, pour lui, c'est le design de la voiture qui était le plus important et non pas la sécurité.
Et non pas la sécurité.
Waouh. C'est étonnant.
Ou c'était plutôt un exemple d'une lubie de...
Ça, c'est clairement une lubie. Après, sur ce qu'on se disait...
Ça fait penser à Steve Jobs, excuse-moi, je te coupe.
Mais beaucoup de...
Alors, pas dans les voitures, mais dans les iPhones, on sait qu'il avait une passion maladive du détail, Elon Musk.
Oui.
Et simplement parce qu'il y avait un petit truc qui lui plaisait pas sur un bord arrondi d'un iPhone. Il renvoyait tout bouler. Mmh. Et même si il y en avait des dizaines de milliers qui avaient été commencés à être fabriqués, ça recommençait. Quoi, en fait. Ça fait penser un peu à ce trait de caractère, je trouve.
Mais après, moi, je voulais juste rebondir sur l'idée d'un plan global. Moi, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait un plan global, et je pense plutôt que ces dernières années, il a une ambition très... une vision très politique d'un modèle du monde qu'il entend appliquer. Si je prends le cas de l'Hyperloop, on a beaucoup parlé de ce train dans un tube qui relierait très rapidement les villes. À l'époque, c'était San Francisco, Los Angeles, en un quart d'heure, quelque chose comme ça. Ça, on sait que c'est une idée qu'il a complètement copiée, 6 mois plus tôt, une start-up vient, lui propose exactement ça. Il leur dit, pas de problème, je vais peut-être investir chez vous. Revenez plus tard, travaillez un peu ça. 6 mois après, il annonce son projet à lui qui est exactement le même. Et il l'a un peu plus ou moins avoué qu'il n'avait pas du tout l'ambition de le créer. Il voulait juste faire parler de ça pour contrecarrer le plan de TGV entre San Francisco et Los Angeles.
Et en plus, il n'a même pas mis d'argent dans ce projet-là, je crois.
Pas mis d'argent.
Il a confié à d'autres investisseurs qui se sont cassés la figure.
Et pourquoi il fait ça ? Parce que la Californie, c'est quasiment un quart des ventes de Tesla aux États-Unis.
Ah oui, d'accord.
Mais est-ce que finalement, effectivement, il semble vouloir répondre à un dessein politique. Est-ce que, de ce point de vue, X, Twitter, est un formidable outil. Est-ce que c'est finalement pas l'activité de trop par rapport à ce qu'il avait déjà ?
Il y a des chances que complètement. Parce que déjà, ça révèle un peu plus son vrai visage. Et il a reconnu publiquement qu'il a acheté Twitter, qui est devenu X, dans le but de lutter contre le virus woke.
Oui, parce que ça, c'est sa bête de guerre.
Oui. C'est devenu sa bête de guerre. Ouais. C'est vraiment le progressisme dans tous les sens du terme, et en particulier aux États-Unis, avec les droits des mouvements LGBT, des mouvements Black Lives Matter et autres. C'est devenu complètement sa bête noire. Lui, il veut incarner une vision rétrograde. Il veut que toute l'extrême droite, même la plus crasse, puisse s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'il a fait en rachetant Twitter.
Ouais, mais c'est vrai que sa vision initiale, enfin, en tout cas moi j'étais plus fan de Elon Musk d'avant, avec une vision commune, on va aller sur Mars, et tout concocté dans l'histoire qu'il racontait, SpaceX avec SpaceX pour aller sur Mars, Starlink pour avoir du réseau partout,
l'internet
partout
au débit.
Sur la Terre.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Starlink, mais c'est aussi une
belle réussite. Et Tesla potentiellement pour pouvoir avoir des véhicules électriques dans n'importe quelle planète, etc. Il y avait une espèce de cohérence dans l'histoire qu'il racontait, et aujourd'hui on le voit basculer vers un côté plus financier, plus politique. Moins ingénieur, moins Tony Stark, moins Iron Man, j'ai envie de dire, de ce côté, j'aimais beaucoup.
Oui, il s'est fait rattraper par la patrouille des réseaux sociaux, finalement. Et on se rend compte que c'est un autre métier. Aussi, on ne gère pas un réseau social comme Twitter, comme Tesla ou SpaceX.
Absolument pas.
Voilà.
Je crois aussi qu'il y a un autre élément, c'est que, notamment, je fais référence à ce titre, le bonimenteur, bon, c'est un peu péjoratif, mais ils ont cette capacité à pouvoir vendre du rêve, etc. C'est des choses qui étaient probablement extrêmement valorisées jusqu'à il y a 2-3 ans. Maintenant, on a beaucoup plus besoin de dirigeants qui serrent les boulons. La dette est plus chère. Il y a l'inflation. Il faut avoir l'œil sur le cash. Et on peut pas juste s'en sortir en disant je vais relever des fonds à nouveau parce que ça va être plus compliqué. Et donc, il y a aussi un contexte global qui fait que et puis pour les voitures électriques, il y a ce fameux hiver de la voiture électrique qui est annoncé. Vous en parliez dans l'émission hier longuement. Donc c'est un vrai challenge. Le problème de Tesla en Chine également, où il risque de se prendre comme Apple un backlash, y compris pour des raisons géopolitiques. Donc il a beaucoup de sujets qui nécessiteraient une focalisation dans l'excellence d'exécution, d'aller rechercher de l'efficacité opérationnelle et peut-être un peu moins de flamboyance.
Alors, je vous invite, on poursuivra la discussion, mais j'aimerais qu'on enchaîne sur l'actu du jour concernant Twitter, parce que le temps passe. On pourrait faire une heure, voire deux heures sur Elon Musk, finalement.
Voire tout un livre.
Voire tout un livre. Bien joué, Boris. Il est pas mal, quand même. On va le garder. Et donc, Elon Musk a annoncé des petits frais supplémentaires dans un message publié, c'était hier, sur X. Donc, il a annoncé que les nouveaux utilisateurs du réseau social devront bientôt payer pour publier sur la plateforme. Alors, la raison invoquée, j'imagine que tu as suivi cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, Twitter est envahi par les bots, et les bots arrivent à détecter en fait tous les CAPTCHA, etc., etc., grâce à l'intelligence artificielle. Et il se dit qu'en payant, on va s'affranchir de la plupart des bots. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que les bots, c'est un peu une zone d'alerte pour Elon Musk, puisque c'est un peu sa bonne excuse depuis le début. Dès qu'il parle de Twitter,
à un moment,
il veut le racheter, etc. Voilà. Il parle tout le temps de bots. C'est un peu flou. Et depuis le rachat, on commence à avoir un peu de passif. Je ne sais pas vous, en tant qu'utilisateur, moi, je vois toujours autant de bots. Il y en a, c'est un vrai problème pour le réseau social, mais il y en a toujours autant. Je pense qu'il avait sa grande idée de faire payer les utilisateurs avec la petite coche bleue, les utilisateurs vérifiés. Ça n'a pas fonctionné. Il a complètement sous-estimé le poids des annonceurs. C'est une entreprise qui fonctionne avec ses annonceurs. Il a été quand même jusqu'à insulter des annonceurs. Et là, il se rend compte qu'il faut trouver, il faut faire rentrer de l'argent. Donc, il tente une nouvelle option. Est-ce qu'elle va marcher? Ça me paraît un peu aventureux.
Ouais. Et puis, bon, c'est vrai qu'un réseau social, faire payer de nouveaux utilisateurs, comment et combien? Alors, on parle de $1 par an, enfin, de toutes petites sommes, mais malgré tout, quoi. Est-ce qu'on a envie de donner son numéro de carte bancaire à X? Je suis pas sûr. Ce qui est intéressant quand on évoque ces bots, c'est que, je sais pas si vous connaissez une boîte qui s'appelle, qui est Imperva, qui est une des filiales du groupe Thales, qui est spécialiste de la sécurité informatique, vient de publier, en fait, un rapport, 2024, principal enseignement, c'est la montée en puissance justement inexorable des bots. Alors pas que sur X et sur Twitter, partout en fait, des bots malveillants, ces logiciels automatisés qui sont capables de faire de gros débats. Écoutez les explications de Jean-Baptiste Huette et on revient juste après sur ce sujet.
Piratage de comptes utilisateurs, récupération de données sensibles, blocage des sites internet par déni de service, spam. L'an dernier, la part du trafic des bots malveillants, ces programmes informatiques retors, a atteint 32%. Dans le détail, c'est en Irlande où la situation est la plus critique, avec 71% du trafic internet utilisé par ces robots malveillants, suivi de l'Allemagne, un peu plus de 67%, et du Mexique, presque 43%. De nombreux secteurs économiques sont touchés, bien sûr le monde du jeu vidéo, mais aussi le commerce de détail, les voyages, les services financiers, les sites gouvernementaux. Des attaques, souligne l'étude, qui ont un impact négatif sur les finances des entreprises, plusieurs milliards de dollars par an. Des attaques qui dégrade aussi la qualité de service en ligne. Plus globalement, les bots, malveillants ou non, sont petit à petit en train de prendre le contrôle de nos réseaux. De plus en plus de robots, de moins en moins d'humains. Selon Imperva, les humains ne génèrent plus que la moitié du trafic Internet mondial.
Incroyable. La moitié du trafic Internet qui est donc, on va dire, occupé par les bots. Qui parasite, qui gangrène en quelque sorte l'Internet. C'est fou cette histoire-là. On s'éloigne un petit peu du sujet Elon Musk et Twitter, mais finalement pas tant que ça, non, Christophe?
Oui, bah ils sont. Enfin, il y a une grosse partie des bots qui sont des bots malveillants et qui sont aussi beaucoup utilisés dans les attaques dans les attaques cyber ou pour récupérer des informations. Et puis, tu faisais référence à ce rapport de Thales, mais il y a la société allemande avec qui je travaille sort son Threat Landscape 2024 pour parler français sur ce qui s'est passé sur le territoire français. 33% d'augmentation des ransomware, des bots qui sont nourris à l'intelligence artificielle pour créer des éléments contextuels qui fait que l'utilisateur se laisse avoir. Il y a une puissance de l'IA au service de la cyber et de ces outils-là qui est très inquiétante et qui sont mis aux mains de mafias qui sont comme des multinationales au service de
pays
ou de pays qui veulent déstabiliser d'autres pays.
Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Salim? Oui. Non, réagir là-dessus.
De manière générale, dans toutes les industries, entre guillemets, les voleurs et les malveillants sont toujours plus rapides, plus innovants que. On trouve les solutions après. Et aujourd'hui, les bots, ils arrivent à avoir accès quasiment à l'intégralité des sites internet parce que les CAPTCHA. Franchement, ne sont plus du tout efficaces. Enfin, quand on voit ce que GPT-4 et les autres LLM sont capables de faire, on vous demande de cliquer sur trois feux rouges, n'importe quel modèle LLM aujourd'hui capable de faire. Modèle LLM, ils sont capables de réussir des concours à l'entrée de Polytechnique sans aucun problème.
Avec les CAPTCHA, des fois,
Donc les CAPTCHA aujourd'hui sont complètement inefficaces. Et je pense que ça explique aussi en partie l'explosion alors peut-être que ça donne une opportunité. Et en face. Entre guillemets, la formation des gens en cybersécurité, pour l'instant, pas à la hauteur. Alors, ce sera peut-être un des grands métiers du 21e siècle avec la data science et l'intelligence artificielle.
Boris, avec en plus en ligne de mire les JO, là.
Parce que c'est le sujet derrière. On parle beaucoup de bots et de trafic un peu au général. Oui. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que derrière, il y a des volontés potentiellement dirigées, de déstabilisation.
Et nuisance.
Et avec des humains qui ont décidé d'attaquer tel ou tel service. Pour déstabiliser, écorner, et en ce moment, l'image de la France, comme on le voit, en vue des JO, c'est, je pense, des campagnes assez globales. Mmh. On a vu que l'affaire des punaises de lit était un peu montée en épingle.
Tout à fait, oui.
Fomentée par des potentiels médias russes. Mmh. Viginum a relevé qu'il y avait beaucoup de médias russes qui diffusaient des fausses informations. Et là, on a pas mal de cyberattaques par déni de service contre des organismes d'État. C'est un ensemble un petit peu pour écorner l'image de la France.
Tout à fait, déstabiliser, surtout à un moment où tous les projecteurs seront braqués sur notre pays à l'occasion des JO.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et Étienne Brack nous a rejoint sur ce plateau, chers amis. Bonsoir Étienne.
Bonsoir François.
Ravi de te retrouver. Étienne, journaliste à BFM Business. Et il y a cet accord donc entre G42 et Microsoft. Hein, c'est l'une des actualités, on va dire, saillantes du jour. Et une fois de plus, Microsoft rafle la mise avec OpenAI et ça se passe aux Émirats Arabes Unis.
Oui, c'est assez important, hein, 1,5 milliard alors qu'il y avait déjà un investissement de quasiment 3 milliards ces derniers jours au Japon. C'est un investissement stratégique, hein, puisque en échange de cet investissement de 1,5 milliard, eh bien vous avez Microsoft qui va rentrer au board de GA42 et puis surtout qui va devenir un fournisseur essentiel de services, hein. Forcément, l'entreprise, le fond, hein, puisque c'est un mélange des deux, va se fournir auprès de Microsoft pour ses solutions d'intelligence artificielle, mais pas que. Alors c'est une solution, une société plutôt qui est assez méconnue, hein, médiatiquement, ils font pas beaucoup parler d'eux, mais peut-être qu'avec ce partenariat, eh bien ils iront plus loin, notamment en termes de créativité et de nouvelles, d'autant plus que G42 et Microsoft vont créer un fonds de 1 milliard afin d'alimenter et de créer un vivier de développeurs. Donc forcément, c'est une bonne nouvelle pour Microsoft. Alors le groupe ne donne pas la répartition géographique de ses ventes, hein, mais c'est une zone où il y a une croissance importante. Et puis surtout, il ne s'en cache pas, avec G42, Microsoft espère ouvrir des portes en Asie, mais aussi en Afrique. Alors c'est quand même assez important, d'autant plus qu'en coulisses, vous avez la Maison Blanche qui a fait des tractation, qui a dit à G42 on veut bien, mais à condition que vous vendez vos participations en Chine. Donc en février, ils ont vendu toutes leurs participations qu'ils avaient en Chine. Et puis surtout, c'est un accord qui aujourd'hui serait inimaginable avec un grand groupe chinois. Ça, c'est sûr, hein, puisque forcément, derrière tout cela, eh bien, il y a l'accès aux technologies. Alors, c'est un investissement important pour Microsoft, 1,5 milliard, mais quand vous regardez au final la trésorerie, c'est un groupe qui a entre 60 et 80 milliards de cash aujourd'hui.
Oui.
Bien planqué, enfin planqué dans le sens où c'est placé, hein, en termes de liquidité. Donc 1,5 milliard, au final, ça reste une somme assez ordinaire, hein, pour Microsoft. D'autant plus, comme je le disais, ça va aujourd'hui donner un carnet d'ordre assez important, dans le sens où derrière, ce sont des clients potentiels.
Merci beaucoup Étienne Brack, et toujours avec nous Christophe Olnet, Salim Hassan et Boris Mananti. Christophe, intéressant, hein, cette prise de participation qui est minoritaire, hein, oui. Rappelons-le, oui, dans G42. Comment tu analyses en fait cet investissement?
C'était bien résumé par Étienne. Je pense que ça peut apparaître comme une victoire, un beau gain commercial pour Microsoft, mais c'est aussi plutôt derrière une prise de guerre, si je puis dire, géopolitique,
oui, de la part du gouvernement américain.
Cette entreprise, elle a été créée il y a 5 ans, G42, avec des fonds très importants qui visaient à faire des Émirats Arabes Unis une superpuissance dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Donc c'est une boîte spécialisée dans l'IA, G42.
Oui, mais c'est un mix d'une boîte de conseil, des start-up, un fonds, des différents, il y a 22 000 personnes, beaucoup, beaucoup d'argent, et ils ont commencé à développer des choses assez intéressantes avec une vision et des data centers, une vision très souveraine. Et au début, Microsoft a regardé ça d'un peu loin en disant, bon, c'est encore un truc. Ils ont continué. Et en fait, ils ont donc développé avec Huawei, et depuis 3 ans, ça devenait un irritant pour Microsoft, même localement, parce que certains acteurs du secteur public allaient vers ces data centers. Et donc
c'était une boîte qui était adoubée aussi par la Chine.
Oui, Huawei. Il faut savoir que Peng Xiao, qui est le directeur général de G42, est l'ancien directeur général de Pegasus. C'est un Américain visiblement d'origine chinoise, mais qui avait la nationalité américaine, qui l'a abandonné pour la nationalité des Émirats Arabes Unis. Donc, il y avait de la part du département du commerce américain, donc ce personnage un peu sulfureux, ses liens très forts avec Huawei, il avait développé des liens très forts avec Huawei chez Pegasus, vous savez, ce logiciel
espion. Oui, ce fameux logiciel qui s'est retrouvé.
Voilà. Et donc, il y a un peu moins d'un an, il y a eu une réunion où le département du commerce américain a visiblement, de ce que Bloomberg explique, a visiblement mis les points sur les i en disant si vous continuez, vous ne désinvestissez pas en Chine, vous continuez, vous n'aurez pas accès aux puces Nvidia, par exemple. Ce genre de choses. Donc évidemment, c'était un gros danger. Et donc, ils ont entamé un processus de désinvestissement qu'ils ont annoncé en février. Et puis là, on a conclu un bel accord Microsoft, un peu à la bleue, c'est-à-dire qu'on va faire du souverain AI local, bleu étant la joint venture Capgemini, Orange et Microsoft qui est en France, c'est un peu quelque chose comme ça. Mais donc ça, je pense que ça, c'est très positif pour Microsoft. Je crois que le secteur public des Émirats Unis sont contents parce qu'ils vont pouvoir faire du Microsoft alors que ça les gênait. Mais derrière, c'est un win-back, si je puis dire, formidable pour le gouvernement américain dans une zone où finalement, un peu comme Singapour, Émirats Unis, c'est des pays qui essayent
qui sont au carrefour entre l'Occident et l'Asie.
Et donc là, ils ont complètement récupéré les choses. On voit Brad Smith, qui est la seule personnalité maintenant au board. Il n'y a pas de Chinois au board. Ils n'ont pas mis quelqu'un d'offre-produit. Ils ont mis quelqu'un vraiment spécialisé à faire public. Et je pense que ça va être un formidable poste d'observation aussi de ce que font les Chinois.
Boris, sur ce sujet.
Ah, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'assister à un jeu de risque qui est la bataille de l'IA qui commence. Et chacun place un peu ses pions et ses troupes. Et c'est effectivement une belle prise de guerre pour Microsoft dans la compétition mondiale que va être l'IA. Enfin, ça commence.
Oui, ça commence, c'est clair.
Moi, je trouve qu'évidemment, c'est bien joué de la part de Microsoft. Il y a deux choses. Il y a une stratégie très offensive, déjà commercialement, effectivement, ils vont les équiper de tous les serveurs Microsoft, etc. Mais en dehors de ça, ça leur donne la main sur un actif qui peut être très stratégique, parce que, enfin, de ce que je comprends, G42 a un asset qui est très intéressant, c'est qu'ils font ils sont très bons pour les LLM arabophones.
Absolument.
Donc pour les LLM, l'équivalent de OpenAI, enfin de GPT-4, etc.
Oui.
Sur la langue arabe. Alors je ne sais pas à quel point GPT-4 est performante en langue arabe, mais il se trouve que G42 visiblement est très performante. Donc ça leur donne une supériorité sur un marché qui est quand même super stratégique.
Et quand on sait que les accointances entre OpenAI et Microsoft sont quand même assez fortes, ça, on voit l'intérêt.
Et d'un autre côté, une stratégie défensive qui est de dire on va essayer de limiter que la Chine mette la main sur des actifs stratégiques avec des partenariats effectivement avec Huawei et compagnie et potentiellement j'imagine des discussions actionnariales ou capitalistiques qu'ils auraient pu avoir dans le futur. Et je suis complètement d'accord avec toi. On voit qu'il y a pour l'instant, les États-Unis ont l'air d'avoir beaucoup d'avance. Si on regarde tous les champions mondiaux de l'IA aujourd'hui, les grandes boîtes américaines ou les grands fonds américains sont tous actionnaires minoritaires ou majoritaires. Les Claude, Anthropic avec Amazon, OpenAI avec Microsoft, Gemini Google, Llama Facebook, même Mistral AI qui est censé être le champion français, Andreessen Horowitz au capital. À chaque fois qu'ils voient émerger un champion dans n'importe quelle région,
ils investissent.
On investit, on essaye de prendre des parts parce qu'on ne sait pas quel sera le grand vainqueur à la fin, mais ils maximisent leur probabilité de détenir les 2-3 champions qui vont émerger.
C'est sûr que si on avait un doute sur le fait que la Big Tech soit au service du gouvernement américain et réciproquement,
on n'a plus de doute.
Non, ça c'est clair.
Parce qu'on peut imaginer que en sous-main, dans cette transaction, il y a la Maison Blanche.
Oui, ça paraît assez évident là, oui, de ce qu'on lit. Bon, ouais, et puis,
en tout cas, de ce qui transparaît dans la presse, c'est personne n'a l'air de s'en cacher.
Mm-hmm.
Non, et même
Peng Xiaoli. C'est les Chinois qui doivent tirer la gueule.
Le DG de G42 a dit oui, bon, de toute façon, il faut être pragmatique. Si on veut pouvoir avoir accès et pouvoir offrir la plus large palette
de
technologies au monde, y a des choses qu'il faut qu'on désinvestisse en Chine pour pouvoir avoir accès aux technologies occidentales. Voilà, donc il l'a quasiment dit comme ça.
Ouais, intéressant. Bon, dans l'actualité, autre sujet, puisque on se rapproche petit à petit de l'Asie, si on s'intéresse à TikTok. L'actualité TikTok, elle est quasiment quotidienne. Hein. C'est vrai que les jours sont compliqués pour le patron de TikTok, qui se retrouve tiraillé et bien évidemment toujours pointé du doigt par à peu près tous les pays occidentaux. Hein. On va pas vous refaire l'histoire. La dernière histoire en date, elle est très récente. Ce sont d'anciens salariés de TikTok qui auraient, on va dire, raconté que, il y a toujours des connexions entre TikTok et ByteDance, qui est la maison mère de TikTok. Ce qui a toujours démenti TikTok et ByteDance en disant la version occidentale, elle est déconnectée en fait de la Chine. Vous pouvez nous faire confiance, etc., etc. On n'a rien à voir avec ça et on n'a pas accès aux données. Il se trouve que d'anciens employés, plutôt placés d'ailleurs chez TikTok, auraient prouvé le contraire. Et là, évidemment, ça arrange pas les affaires de TikTok, Christophe.
Non, en fait, qu'il y ait des liens entre TikTok et ByteDance historiquement, personne n'en doute.
Logique.
Elle fait très mal cette attaque parce que qu'est-ce qu'elle dit ? C'est un data scientist qui dit tous les 15 jours, j'envoyais un fichier Excel ou autre avec des millions
une clé USB
j'envoyais avec des millions de comptes, adresse IP, nom d'utilisateur, démographie, etc. J'envoyais ça en Chine, on me demandait de le faire.
J'espère que c'était pas la clé USB qu'ils ont perdue dans le RER avec les plans des JO.
Ça, ils le faisaient.
C'était une autre.
Ils le faisaient avant. Mais il faut savoir qu'en mars 2022, enfin à un moment donné, il y a eu un accord, ils ont dit, bon, finalement, on entend bien vos préoccupations.
On arrête d'envoyer les données.
On arrête, on fait un mur de Chine, si je puis dire.
Bien sûr.
C'est pas la bonne expression.
Mais elle est
un mur étanche
évocatrice.
Entre TikTok, États-Unis et ByteDance. Et là où l'attaque fait mal, c'est qu'il accuse le management de complicité et de duplicité. Et aux États-Unis, on peut faire des conneries, mais mentir, ça, c'est pas accepté. Et donc, je pense que c'est même presque plutôt un cadeau empoisonné pour Biden, parce qu'il va se retrouver avec des preuves quasi objectives qu'ils ont menti, puisqu'il dit aussi que on lui a dit post-accord, bon, ton nouveau manager, il est à Seattle là, mais en fait, dans la réalité, tu continues à reporter à la personne à Pékin et tu continues à les envoyer. Donc, ça veut dire que, ils se sont moqués de cette, ils n'ont pas tenu parole, ils se sont moqués de cet accord-là. Et si ça s'est avéré vrai, il va falloir prendre des mesures. Et le coût, COUT, politique, à 6 mois d'une élection, de dire je bannis TikTok, c'est pas une décision facile.
Oui, Boris, tout ça dans un contexte où, il y a des sénateurs aux États-Unis qui veulent l'arrêt de TikTok, en fait. Oui. Ils veulent que TikTok sorte, en fait, du continent américain. Oui. Qu'on ne puisse plus télécharger TikTok sur les stores.
Le bannir.
Mais ça commence à être assez, j'ai l'impression, en tout cas, partagé, côté démocrate comme républicain, qui a un vrai problème TikTok. Ils l'ont déjà interdit à tous leurs fonctionnaires. Ça pourrait être l'étape d'après de se dire qu'on bannit parce qu'il respecte, TikTok ne respecte pas la loi. C'est valable aux États-Unis, c'est valable en France, c'est valable dans plein d'autres pays. Et en vrai, ces révélations, elles sont choquantes, mais c'est pas une vraie surprise. C'est pas la première fois qu'on apprend qu'ils récupèrent des données. On savait déjà, par exemple, que la direction chinoise avait utilisé TikTok pour espionner une journaliste américaine qui enquêtait sur TikTok. L'espionner, ça veut dire trouver sa localisation, voir avec qui elle parle, trouver les messages. On va assez loin quand même dans les mesures. Et les liens entre ByteDance et TikTok, qui est censé être une multinationale, sont hyper étroits et ça ne va pas s'arrêter demain. A priori, le code informatique est le même que Douyin, la version chinoise. Une grande partie est en mandarin et reste traité à Pékin.
Oui. Ouais. Non, je pense que c'est une surprise pour absolument personne qu'il continue à avoir de la communication entre TikTok et Biden. Je serais surpris qu'il y ait des gens qui soient surpris par cette nouvelle.
À l'ère de
quand il y a l'annonce et quand il y a des choses plus concrètes, évidemment, ça donne encore plus de travail aux politiciens parce que ils ont le nez dessus, ils doivent agir. Mais voilà, si les politiques américains sont pas à l'aise avec ça, évidemment qu'ils le sont pas, mais ils doivent tout simplement agir et interdire TikTok ou les faire passer avec un actionnaire américain. Mon sentiment, c'est que la raison pour laquelle c'est compliqué, c'est qu'il y a toute une économie de créateurs autour, toute une panoplie de business qui compte sur TikTok pour vivre de la même manière que sur d'autres plateformes, et que c'est compliqué. Mais je pense que tant que TikTok, avec son lien capitalistique avec ByteDance, existera, je ne vois pas comment ce sera possible que la Chine ne continue pas d'espionner.
D'où la volonté des États-Unis de désolidariser TikTok US, ça serait l'une des options possibles. Il faudrait qu'un géant de la tech américain ou un géant tout court
à l'époque, Trump avait demandé à Oracle de le faire.
Tout à fait.
On se souvient.
Et puis finalement, c'était tombé à l'eau. Après, bon, Trump été remplacé par Biden.
En période d'élection, on peut faire confiance aux politiques pour pas prendre des décisions rationnelles, mais les faire uniquement en posture politique. Donc, si jamais Biden dit bon, on va bannir TikTok, on peut être à peu près sûr que Trump, ayant revendiqué la même chose, volera au secours des PME/PMI qui font du business avec TikTok ou des ados qui ont le plaisir à l'utiliser pour dire qu'il ne faut pas le bannir.
Après, je trouve qu'on parle beaucoup des États-Unis, on entend très très peu les politiques françaises en parler de ce sujet-là. On a une commission sénatoriale qui a enquêté dessus, qui a dit qu'il faudrait bannir TikTok tant qu'il ne respecte pas la loi, puisque TikTok, en France, ne respecte pas la loi de protection des données. C'est avéré. Il y a des données qui sont transférées vers des serveurs chinois, ce qui est illégal. Comment ça se fait qu'il n'y ait aucune sanction? Là, on a le président chinois qui va venir début mai. rencontrer Emmanuel Macron, ça serait une formidable occasion pour que le sujet soit évoqué.
Ouais, c'est clair. Bon. Après, comme il va acheter sans doute quelques centaines d'Airbus,
c'est peut-être pas la priorité. C'est vrai.
Quelques EPR, c'est peut-être pas le moment.
Au-delà du non-respect de la vie privée, je pense que l'autre chose, ça, tu es un spécialiste du sujet, tu as écrit un livre là-dessus, c'est l'impact que ça a sur l'abrutissement généralisé de générations qui vont, dont on considérera probablement dans 50 ans qu'elles ont été des générations sacrifiées. Est-ce qu'il va falloir faire quelque chose?
En tout cas,
pas que TikTok. Ouais.
Non,
absolument. Non, mais la question du temps passé.
TikTok, on est un emblème. Ouais,
parce qu'ils viennent quand même de lancer ce fameux TikTok Lite où on est rémunéré, certes en bon d'achat, mais on est rémunéré pour le temps passé sur l'application.
Ouais, ça c'est chaud quand même. Hein. C'est-à-dire que vous téléchargez une application autre que TikTok, et plus vous restez de temps, enfin je schématise et voilà, je grossis un peu le trait, mais vous gagnez de l'argent en regardant des vidéos, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Mais alors, je ne veux pas prendre la défense de TikTok ici, parce qu'on est tous plus ou moins d'accord sur tout ça, mais TikTok est un peu montré comme le vilain petit canard, mais tous les réseaux sociaux américains font pareil en fait. Les Instagram, les Facebook récoltent des données, les envoient aux États-Unis. Et là, on dit rien, finalement.
Il y a un point de différence crucial qu'il ne faut jamais perdre de vue. Les États-Unis sont un allié géopolitique de la France. Mmh. La Chine ne l'est pas.
Mmh. Oui.
Le Parti communiste chinois est au sein de ByteDance, a des sièges, a des actions chez ByteDance. Ils ont des représentants très officiels, comme les grandes entreprises chinoises, chez ByteDance.
Oui, d'accord. Mais enfin, bon, la Chine aujourd'hui n'est pas un ennemi, si tu veux.
Ce n'est pas un allié.
Ce n'est pas un allié.
C'est une différence assez fondamentale en géopolitique.
Non, mais tu as raison. Mais on peut imaginer aussi que demain, les relations se tendent entre la France, l'Europe et les États-Unis. Hein. Enfin, on vit un monde où tout est possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, on montre du doigt TikTok. Beaucoup moins, enfin, personne ne parle de Facebook, qui est un aspirateur ordonné. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nouveau réseau qui s'appelle Threads, qui, lui, alors aspire tout ce qu'il y a sur votre téléphone. D'ailleurs, il est arrivé un peu en retard en France sur ce sujet-là. Enfin, je ne parle pas d'Instagram, je ne parle pas de Twitter aussi, quoi. Salim.
Ouais. Non, franchement, quand tu as commencé à parler du sujet, j'ai pensé, je me suis posé la même question. Je pense que la Chine avait eu un équivalent du Cloud Act, tout le monde aurait crié au scandale absolue, etc., alors que les Américains le font limite ouvertement en disant qu'ils peuvent exploiter les données sous certaines conditions. Ça paraît assez improbable que dans certains cas ils ne le fassent pas. Et donc j'ai du mal à penser que les Américains ne le fassent pas aussi. Alors peut-être que c'est une position assez forte, mais évidemment, quand on voit toutes les données qui sont traitées par les serveurs AWS, etc., qui peuvent être extrêmement stratégiques, il y a des raisons de penser que sur certaines conditions, ils utilisent aussi certaines de ces données-là, pourquoi pas. Ouais. Mais le fait que ce soit la Chine, pas l'allié effectivement des pays occidentaux, fait que ça fait plus de bruit. Je pense que les autres plateformes devraient avoir le même problème.
Et pour revenir à TikTok, imaginez le courage politique qu'il faut pour enlever le TikTok de la main de millions et de millions de jeunes adultes.
Certains pays l'ont fait. Alors c'est pas le meilleur modèle qu'est l'Inde, mais puisque c'est un pays assez autoritaire, ils l'ont fait.
Ouais, ils l'ont fait. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça serait possible ici, aujourd'hui ?
En Inde, quand ça s'est fait, immédiatement, il y a eu des applis qui copiaient-collaient.
D'accord.
C'est vrai qu'ils sont, et donc, ils sont dans les usages, l'usage s'est retrouvé d'une autre manière.
Ouais, c'est clair. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais qu'on revienne sur le livre de Boris, hein, Elon Musk, Le Bonimenteur, qui sort le 2 mai prochain, donc aux éditions Rocher. Combien de temps faut-il pour écrire un bouquin comme ça, aussi détaillé sur Elon Musk ?
C'est une vaste question. Je dirais que j'ai mis un an et demi.
Un an et demi quand même.
Juste comme ça.
D'accord.
J'ai eu une naissance entre temps. Un peu interrompu à un moment.
Mais ça va, donc tu avais des nuits blanches. Tu pouvais écrire. On parlait tout à l'heure des relations que peuvent entretenir toutes ces boîtes avec les États, et notamment Microsoft avec la Maison Blanche, hein, puisqu'on voit que tout ça a été mené de concert. Quelle relation a Elon Musk justement avec les gouvernants ? Il est plutôt opportuniste. Comment ça se passe ?
Disons que depuis SpaceX...
Parce qu'il n'est pas ouvertement contre Biden.
Non. Il n'est pas ouvertement pour non plus.
Ouais. Oui, mais bon.
Et il appuie bien sur la politique des migrants, qui est tout le discours des Républicains en ce moment. Mais depuis SpaceX, c'est devenu un homme politique, en fait, puisque tous les contrats de SpaceX sont des contrats publics.
Oui.
Il passe son temps à négocier des très gros contrats, notamment la NASA. Donc c'est très très important, les relations politiques pour lui. J'ai l'impression, et c'est ce qu'on lit un peu des bruits, il y a eu quelques grandes enquêtes du Wall Street Journal en début d'année sur ses consommations de drogue.
Oui.
Ah. En tant que patron, mais aussi comment il influence son board pour les inciter à consommer des drogues.
On se souvient de ce podcast où il fumait.
Voilà.
Mais là, mais gros pétard. T'as aussi le microdosing.
Oui. Mais là, qui est une vraie l'article, tendance. En tout cas, moi, je ne sais pas, mais l'article parlait de drogues beaucoup plus dures. Ouais. Les directions de la NASA sont pas très fans.
Ah.
Ça grince un peu que
le CEO d'une boîte qui va fournir, je sais pas moi, des fusées à la NASA ne peut pas ne pas être irréprochable en fait. C'est ça.
En tout cas, ouvertement, faire savoir qu'il consomme des stupéfiants.
Tu parlais de microdosing, c'est vrai que ça c'est une rumeur.
Je vous avais envoyé un article là-dessus dans la Silicon Valley qui commence à dire moi finalement pour être plus performant
que c'est bénéfique.
Prends des microdoses de différentes
quoi des amphétamines des choses comme ça.
Amphétamines, différents stupéfiants, différents dérivés. Et ce microdosing et des dirigeants de boîtes tech encouragent leurs collaborateurs à le faire pour augmenter leur performance. Donc c'est une vraie tendance dans la Silicon Valley.
Je crois qu'il y a un documentaire sur Netflix là-dessus. Ouais.
Sur le microdosing. Oui, alors Salim, tu es un adepte depuis quelques années. Comment ça se passe le microdosing?
Je l'apprends ce soir que ça existe.
Non, mais sincèrement, c'est étonnant. Et alors tu parlais de la NASA, mais quand on voit Neuralink aussi, qui est une boîte qui en plus, avance avec des succès incroyables là. Hein. Alors, il y a eu pas mal de casses, mais c'est vrai que il y a eu pas mal de casses. Mais rappelons que, il y a une personne qui est tétraplégique, qui arrive grâce à la pensée à pouvoir jouer à des jeux vidéo, à manipuler un ordinateur et tout. C'est quand même incroyable cette aventure là.
Ah, ça se développe très vite, mais du coup, l'image qui est renvoyée va être importante puisque là, on parle quand même de santé publique. Il faut être assez irréprochable. Si à côté de ça, le même patron
fait du microdosing.
Mais c'est là où je trouve que la puissance d'Elon Musk. Enfin, Elon Musk a une autorisation de la FDA de pouvoir transplanter justement cette puce dans un être humain. Je pense que si ça n'avait pas été lui, et si ça n'avait pas été les États-Unis, ça aurait été compliqué de le faire.
Oui, c'est
donc bravo à son personnage et bravo aux États-Unis d'avoir. Cette philosophie entrepreneuriale de preneur de risque pour faire avancer la science. Je pense qu'en Europe, on aurait mis 15 ans avant d'avoir une autorisation et 15 ans plus à faire le premier test.
Alors qu'on a le CEA qui travaille sur un concept de puce, alors un petit peu différente, mais en tous les cas, qui a pour but de faire remarcher les gens qui sont paralysés. J'avais interviewé cette start-up qui est incroyable, mais c'est vrai qu'ils ont du mal justement à avancer, sans mauvais jeu de mots, parce que il faut toutes les autorisations, etc., etc. Et la lourdeur administrative française fait que ça prend des dizaines d'années. Quoi.
Après, tu dis bravo, à côté de ça, peut-être que c'est plus lourd. Pour autant, lui, ça a été peut-être un peu trop vite, puisqu'on a appris quand même qu'il y a pas mal d'animaux qui sont passés sur le billard et qui ont été un peu sacrifiés comme ça,
c'est clair.
Juste pour accélérer et pour aller vite.
C'est sûr.
Sans aucune précaution.
Bon, écoutez, si vous voulez en savoir plus sur Elon Musk, la face cachée, la face sombre d'Elon Musk, rendez-vous le 2 mai. Hein, voilà.
Exactement.
C'est le 2 mai que sortira ce bouquin qu'on vous fait découvrir donc en avant-première ce soir dans Tech & Co. Boris Monanti, son auteur, était avec nous sur ce plateau. C'est paru aux éditions du Rocher. Merci Boris.
Merci à toi.
Et tu reviens quand tu veux pour débriefer l'actu, qu'elle soit d'Elon Musk ou autre. Voilà. Et merci beaucoup à Christophe Olnet.
Merci.
Rappelons-le, senior advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft Asie du Sud et France. Et Salim Assad.
Merci.
À bientôt, Salim, associé chez Newfound.